chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Deux émissions, aux antipodes l'une de l'autre, Jazz Rétro et Bienvenue chez le Roi. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, le sujet s'invite dans les deux. Johnny Hallyday dans Jazz Rétro et Jean d'Ormesson, membre à part entière de Bienvenue chez le Roi, partageaient des racines généalogiques communes qui remontent au XVe siècle en Belgique. C'est ce que démontrait Christine Mathéus le 14 décembre 2007 dans son article publié dans Le Parisien.
Sur cette plage, elle a dû être très belle. Est-ce que son sable était blanc? Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de chaque dune? J'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière? Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne? Est-ce qu'il y avait des galets dans le creux de chaque cascade? J'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans une rivière. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi des photos pour voir si tout cela a vraiment existé. Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau et des pierres, et des arbres, et des oiseaux. Allons, ne vous moquez pas de moi. Qui a marché dans ce chemin? Vous dites qu'il menait à une maison et qu'il y avait des enfants qui jouaient autour. Vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée? Vous pouvez m'assurer que cela a vraiment existé? Dites-moi, allons, ne me racontez plus d'histoire. J'ai besoin de toucher et de voir pour y croire. Vraiment, c'est vrai? Le sable était blanc? Vraiment, c'est vrai? Il y avait des enfants, des rivières, des chemins, des cailloux, des maisons? C'est vrai? Ça a vraiment existé? Ça a vraiment existé?
L'avez-vous vraiment reconnu? Johnny Hallyday disait ce poème sur la septième. Quand il faisait chavirer les salles de concert avec son « Que je t'aime », le second, Jean d'Ormesson, répondait par la plume en écrivant, en affirmant « C'est l'amour que nous aimons ». Enfant de la balle et issu de la noblesse pour l'autre, l'immortel et le rocker ne semblaient avoir en commun que ce même regard bleu azur et l'universalité de l'éloge lorsqu'ils sont partis, le 5 et 6 décembre 2017. Or, un autre lien inattendu, celui-là, les unit pourtant, et il est familial, surprise de la généalogie. Jean d'Ormesson et Johnny Hallyday sont bel et bien cousins. Certes, il faut remonter au XVe siècle pour dénicher leurs racines communes, à Namur, ville du royaume de France à l'époque, et du royaume belge aujourd'hui. Ils descendent tous les deux d'un noble seigneur, Jean de la Malaise, et de son épouse, Marie Smaëlé de Broesberg.
«
nous voulions rendre hommage à ces deux monstres sacrés en croisant leurs arbres respectifs et nous sommes tombés sur ce Jean de la Malaise. Certes, nous sommes tous un peu cousins, mais c'est quand même amusant de le démontrer ainsi. Commente Christophe Becker, directeur du site de généalogie Généanet, où sont référencés tout de même 5 milliards d'individus. Ce couple a eu 3 enfants, dont 2 filles, Marie et Catherine. La branche Smet descend de Marie. Et la branche d'Ormesson descend de Catherine. Et cela donne, 13 générations plus tard, l'académicien, l'homme de lettres, et le chanteur rocker. Éric Emmanuel Schmitt dit de Johnny « Il est celui qui, au fond de nous, ne renonce jamais. Il nous donne une idée de ce qu'est l'héroïsme. »
Si tu reviens un jour, marche sur les traces de notre amour. Tu ne trouveras plus ton chemin. Si un jour ici tu reviens, tu verras la maison comme moi. Elle a son cœur à l'abandon et ses portes ouvertes à tous les vents. Ne me cherche pas plus longtemps. J'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il pleut toujours un peu sur les chagrins. Tu es parti trop tôt, tu es venu si tard, et je ne sais même pas où va ce train. J'ai attendu longtemps, guettant ta voix dans la voix du vent, ton image. Ton parfum dans les champs. J'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il pleut toujours un peu sur les chagrins. Tu es parti trop tôt, tu es venu si tard, et je ne sais même pas où va ce train. Tu es parti trop tôt, tu es venu si tard, et je ne sais même pas où va ce train. J'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il pleut toujours un peu sur les chagrins.
Du côté de Jean d'Ormesson, c'est par les épouses que l'on trouve le lien avec l'écrivain. Celles-ci firent de belles alliances avec un baron, gouverneur et capitaine du duché de Bouillon au nom du prince de Liège, avec les seigneurs de Nil, de Melroy, de Brumagne ou d'Arville, jusqu'au vicomte de Namur d'Elzé. Celui-ci possédait le château Bayard à Duy, petite bourgade à 15 km de Namur, où vécut l'arrière-grand-mère de Jean d'Ormesson, Marie. Celle-ci épousa le marquis d'Ormesson, un nom hérité du fief de l'actuel d'Ormesson sur Marne. Thank you. Du côté de Johnny Hallyday, l'histoire commence avec Marie de la Malaise, qui épousa le seigneur de Vanzaine. Mais dès la troisième génération, les choses se gâtent un peu. Le rang social baisse drastiquement. Au début du XIXe siècle, l'ascendance noble est même oubliée. Jean Smet, 1771-1848, est ouvrier agricole à Bèze. Son fils, Jean, sera tavernier et vendra aussi en même temps des articles de pêche. Son petit-fils, Antoine, sera maréchal ferrant, puis machiniste à Bruxelles. Peut-être déjà dans le spectacle, donc. Le fils d'Antoine, Léon, père de Jean-Philippe Smet, sera tristement connu pour l'avoir abandonné bébé, avant que celui-ci se voie attribuer le titre non moins noble d'idole des jeunes. Et le père cherchera à ce moment-là à le récupérer de façon assez minable et particulièrement odieuse devant les journalistes.
Tous ceux qui n'y ont jamais cru. C'est un Noël pour les chiens sans collier, pour ce gosse de la rue que j'étais. À l'histoire, mais mon cœur d'enfant était déjà trop grand et mes rêves emportés par le vent. C'est un Noël pour mes premiers copains oubliés au hasard des mauvais chemins. Une chanson pour ceux dont l'horizon est le mur sombre et gris des prisons.
Noël de la nuit, mon Noël interdit. Je voudrais l'oublier avec toi.
Paris Match lui a aussi rendu un hommage que j'ai trouvé assez mesuré. Peut-être toujours cette vieille rivalité avec le Figaro, qui sait. Quelques photos, très moyennes. Et deux articles sur une page, recto pour Christine Orban et verso pour Jean-Marie Roire, deux amis très proches. Et quelques commentaires en citations brèves. La littérature est un chagrin dominé par la grammaire, disait-il, mais aucune lucidité, aucune désillusion ne mit jamais en péril sa joie de vivre. C'était son défi. On ne pouvait pas choisir les roses sans prendre les épines. Œil bleu et peau parcheminée par la mer et le ski, il était né sous les dorures, mais il appartenait à une génération qui n'avait pas été épargnée par l'histoire. Munich, l'Exode, Vichy, puis De Gaulle. L'enchanteur avait été forgé par son siècle. Homme de droite, avec une foi non négociable dans le progrès et l'égalité, la tâche qui nous est incombée, c'est de donner toute leur chance à tous les jeunes gens, disait-il. L'écrivain le plus populaire de France parlait du lointain, d'une sagesse qui refusait de se prendre au sérieux, Qui n'a pas connu l'ancien régime, n'a pas connu la douceur de vivre, disait Talleyrand. Pour nous, cette douceur a un nom. Jean d'Ormesson, gentilhomme de l'Académie française. Jean disait, mes parents s'aimaient, ils m'adoraient. Je n'ai pas eu tellement à me battre au début de ma vie. À quelques semaines, le comte Jean Bruno Vladimir François de Paul Lefebvre d'Ormesson manque pourtant de mourir. La légende veut qu'il ait été sauvé par le jus de carotte, ce descendant d'une noblesse de robe compte dans ses aïeux un régicide. Il est le fils d'un ambassadeur du Front populaire et d'une châtelaine ultra-conservatrice. Adolescent, il brille dans ses études et dans les salons. De là à avoir une vocation. Écrivain, peut-être. Alors au moins écrit, rétorque son père. Mort avant la publication de la gloire de l'Empire, le livre qui allait rendre Jean immortel. L'Académie, ce n'est pas un but, expliquait-il, mais le moyen d'assurer à mon père que finalement, je n'étais pas à rater. Personnage médiatique et homme de presse, à 25 ans, Jean d'Ormesson fait ses débuts à Paris Match, justement, envoyé spécial en Vendée. Et d'abord, l'île de Noirmoutier n'est pas une île. Déjà, le sens de la formule. Le temps passe, mais ne change pas ses habitudes. Il écrit à la main, même au Figaro, dont il devient le directeur en 1974. De ses années passées dans un bureau qui domine l'Étoile et la Concorde, il disait « C'est très romanesque ». Sans adresse e-mail ni téléphone portable, Jean Dau devient un régulier des plateaux de télévision, polémiste à la voix douce et aux manières impeccables. Il remporte l'un de ses plus beaux combats en 1980, faire élire une femme à l'Académie française, Marguerite Yourcenar. Il y a eu des mots vifs, on m'a traité de galopin, peut-être même de voyou. Pendant 50 ans, le journaliste a donné le ton à une droite humaniste et tolérante. Son amie chère, Christine Orban, a signé dans le Paris Match « Je me souviens ». Jean, pas toi. Rien ne te va mieux que la vie. Tu l'avais en toi avec une force qui contaminait ton entourage. On était là, à Fornali ou au Kinèse, sous le soleil ou la lune corse, à t'écouter des heures, raconter des histoires, déclamer des vers, nous émerveiller de ta culture et de tes nombreuses passions. Je t'ai vu écrire en plein soleil, assis, avec ce crayon que tu taillais et qu'un jour tu as perdu dans un avion. Pourquoi le chercher à quatre pattes? Faire lever les pieds de toute une rangée? Parce qu'un roman, c'est quatre crayons et demi, et je ne veux pas perdre ma mesure, m'as-tu répondu. Quatre crayons et demi, tu en as usé des crayons, tu en as rempli des pages et des pages, sous le cagnard ou au coin du feu en rentrant du ski. Sur les pistes, tu étais le plus intrépide de nous tous, on se moquait de toi, en disant que tu amortissais le forfait. Tu n'étais pas niveau chasse-neige, mais télémarque, une glisse d'un autre temps. Mais combien efficace. Pendant que l'on déjeunait, tu continuais à skier dans ton jean trempé, ton bonnet de laine enfoncé sur la tête. Je ne te l'ai dit que plus tard. Nous déjeunions au Grand Véfour, tu m'avais invité. Si je suis devenue romancière, c'est à cause de toi. On se promenait le long de la mer, j'avais 18 ans, et tu m'as demandé ce que je voulais faire dans la vie. Je voulais être écrivain, tu m'as prise au sérieux. Après un long silence, comme si tu réfléchissais sur les raisons pour lesquelles tu écrivais, tu m'as dit « Quand on est ambitieux et paresseux, il faut devenir écrivain. Lorsque j'ai publié ce livre de petites phrases dans lesquelles je te cite, tu m'as appelé au téléphone et tu as rectifié. En fait, je me suis trompée. Pour devenir écrivain, il ne faut être ni paresseux ni ambitieux. Cher Jean, qui conseillait généreusement à ses lecteurs d'acheter mes livres, puisque la lettre O nous réunissait lors des signatures. Jean qui nous avertissait quand c'était l'année du bon Jean, et qu'on pouvait lui demander tout ce qu'on voulait. Irrésistible Jean qui séduisait tout le temps, avec ses yeux bleus et son mot épatant, et tous les autres, toujours bienveillants. J'ai connu ce Jean des vacances, des soirées, marquise des anges, devant la télévision avec son épouse, Boisy. Jean en famille avec sa fille, la petite Héloïse, qui deviendra un grand éditeur. J'ai connu l'autre aussi, le Jean qui reçoit Marguerite Yourcenar sous la coupole. Je n'oublierai jamais cette première après-midi à l'Académie. Tu invitais les jeunes, qui ne représentaient rien d'important, mais tu nous aimais bien. J'ai pu, grâce à toi, pénétrer dans ce lieu et y entendre résonner de ta bouche, pour la première fois, le mot « Madame ». Je me souviens d'avoir pleuré. Je pleure aujourd'hui, Jean. Nous te pleurons tous. Tu es devenu une gloire nationale. On t'aime. Marie-France Guimaroche vous retrouvera pour d'autres émissions plus classiques de Bienvenue chez le Roi, enregistrées et réalisées par Roland Richard dans les studios du Rocasse de Radio Grand Ciel.